Donc tu commences des cours de chant, des cours de danse.
Ouais, et là il se passe un truc. Mon destin, il était pas sur des patins, mais sur scène.
Elle a marqué mon enfance et elle a sûrement marqué la vôtre. La légendaire Laurie est mon invitée sur le podcast cette semaine.
Il cherche la Britney Spears française. Tu vois, être chanteuse, tu peux pas faire ça toute seule, quoi. Sinon, tu chantes sous ta douche. Bah, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, mon équipe, je l'avais perdue, en fait.
Comment est-elle devenue l'une des pop stars françaises les plus populaires de son époque? Et comment vit-on un tel niveau de célébrité du jour au lendemain?
Bah moi je voulais toujours aller plus loin. Pendant 8 ans, je crois que j'ai fait une année un album, une année une tournée, une année un album, une année une tournée. Stop. Il y a vraiment quelque chose qui va pas.
Et ça ressemble à quoi ces 5-6 années non diagnostiquées?
Douleur. Douleur atroce. En vrai, il fallait m'opérer tout de suite.
Donc on t'a enlevé l'utérus?
On m'a enlevé l'utérus, ouais. Et je revis.
Est-ce que t'en veux à ton corps? Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter le contenu du podcast ou si vous êtes déjà inspiré, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Laurie. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power.
Merci.
J'ai un peu l'impression d'être dans le metaverse, parce que si on m'avait dit quand j'avais 8-9 ans que je recevrai quelques années plus tard Laurie sur mon podcast, je ne suis pas sûre que j'y aurais cru. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui te connaissent, qui ont grandi avec toi. Donc je suis très curieuse de faire cet épisode avec toi. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas ou ne te connaissent plus, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Je suis Laurie, je suis artiste, chanteuse, comédienne, réalisatrice. En fait, j'écoute mon cœur et je fais ce que j'ai envie de faire.
Ça a toujours été le cas?
Ouais.
Ok. Ouais. T'as jamais eu une forme de raison qui pouvait prendre le pas sur cet appel du cœur?
Écoute, t'as toujours des gens autour de toi qui vont te dire ah, attention, ah, peut-être fais plus comme ci, plus comme ça. Et puis une première fois, tu les écoutes, puis tu te rends compte qu'en fait, c'était pas la bonne direction. Mmh. Et après, bah, tu dis bah, putain, j'aurais dû m'écouter, et maintenant, il faut s'écouter.
Quand est-ce que c'est la première fois que tu t'es dit ça? Que tu t'es dit, ah, finalement, j'aurais dû m'écouter?
Je crois que c'était en compète de patinage. C'était en compète, en programme. Et y avait un saut que j'adorais. Et je suis en train de patiner. Et d'un coup, ma prof, elle me dit un truc pour changer un saut à la dernière minute. Et je l'ai écouté et j'ai foiré mon truc. Et je pense que j'aurais pas dû l'écouter.
Ouais. Ah ouais, donc
et,
en
c'est
plus,
la, et c'est la première fois où je me suis dit, ah là là, non. Non, non.
C'est dur parce qu'en plus, quand on est enfant, ado, c'est vrai qu'on a tendance à prendre la parole de l'adulte comme étant la vérité. Mm. Et c'est difficile, je trouve, à cet âge-là, d'affirmer ses choix. Alors, ce qui m'étonne en plus particulièrement, vu que toi, tu as commencé en effet à un très jeune âge, avant d'arriver sur la partie chanson, en effet, il y a la partie patinage qui a beaucoup marqué ta vie. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que tu as déclaré dans une interview que la blessure que tu as eue au genou et qui a mis fin finalement à ta carrière sportive, ça a été le drame de ta vie.
Ah oui, à l'époque, oui.
Comment tu le vis à ce moment-là?
Très mal. Très mal parce que j'avais 15-16 ans, donc ado. Quand tu es ado, dès que tu vis quelque chose de négatif, je dirais, c'est
ton monde qui est bouleversé.
Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est tout ton monde, c'est la terre elle s'arrête de tourner, quoi. Tu vois, ton petit copain t'a plaqué, c'est ah, il n'y a plus rien qui va. Tout est surdimensionné, en fait. Donc, déjà à cet âge-là, donc 15-16 ans, moi, le patinage, c'était ma vie. Je ne vivais que pour ça, c'est-à-dire que le matin, je me levais, je pensais patin. À l'école, je pensais patin. À l'entraînement, je pensais patin. Le soir, je me couchais, je pensais patin. Donc, c'était ma raison de vivre. Moi, je voulais, mon rêve, à la base, c'était être championne. Donc, quand je me suis pété le genou à 2 mois des championnats de France et que le chirurgien m'a dit « bah non, en fait, tu ne vas pas pouvoir le faire », il m'a opéré. Il m'a dit, il faut attendre 6 à 8 mois avec rééducation, tout ça. J'ai dit, ouais, bien sûr. Au bout d'un mois, j'étais sur les patins. Je me suis répétée, je me suis fait réopérer une deuxième fois. C'était, je ne vivais que pour ça. Donc, quand après, j'ai pris la décision, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, parce que je savais que je ne pourrais plus être championne. J'aurais pu être prof, j'aurais pu faire partie de spectacles comme Holiday on Ice et tout ça, tu vois. Mais c'était pas ça, mon rêve, en fait. Donc, je préférais arrêter maintenant. Et bah là, j'ai commencé à déprimer, enfin, tu
vois. Ouais, il y a une crise identitaire presque. Quand tu t'es projeté dans un futur qui finalement n'a plus lieu d'être.
Et puis c'était des questionnements, je sais faire que ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre, ma vie est finie, tu vois, c'était, tout s'écroulait.
Oui, parce que
tu
avais choisi de faire sport-études, ouais. Donc c'est vrai que tu avais vraiment axé ta carrière finalement autour de ça. Ta famille le vit comment à ce moment-là? Est-ce qu'il t'épaule? Parce que c'est facile finalement rétrospectivement de se dire bon bah maintenant t'as pris un risque donc t'en prendras plus, enfin parce que ça n'a pas payé entre guillemets, or finalement tu vas en prendre un autre après en te consacrant à la carrière de chanteuse, tu vois, donc ouais. Comment ça s'est fait, cette décision là
En fait, mes parents, ils ont été super parce qu'ils se sont rendus compte très rapidement que j'allais pas bien. Faut dire, ça aurait été compliqué de pas le voir parce que je sortais plus de chez moi, j'ouvrais même plus les volets de ma chambre, je restais dans le noir, je regardais des vidéos de patinage, je voyais plus mes copines, enfin c'était très compliqué.
T'étais en dépression.
Ah ouais, j'étais en bad total. Et donc mes parents m'ont dit, parce qu'à chaque fois qu'on avait des grosses décisions à prendre, des grosses discussions, allez viens dans le salon, sur le canapé, on va se parler. Et là ils m'ont ouvert les yeux en fait. Ils m'ont dit on voit que ça va pas bien. Pourtant c'est toi qui as pris cette décision là, donc pourquoi tu te sens comme si, pourquoi tu réagis comme ça. Et là ils m'ont dit carrément, ils m'ont dit écoute, quelle est la première chose que t'as appris au patin? Je dis, bah, à bien tomber pour pas se faire mal. OK. Et la deuxième chose, à se relever. OK. Bah là, faut que tu te relèves, en fait. Là, t'es en train de... T'as fait une chute, OK, ça se passe pas comme prévu. Et bah, il faut que tu te relèves, que tu relèves la tête et que tu termines comme si tu terminais ton programme, quoi. Ta vie, c'est ton programme. Et il y a encore plein de belles figures à réaliser. Mais il faut que tu te relèves. Il y a encore plein de belles choses à vivre. Et il n'y a pas que le patinage dans la vie. Donc... réfléchis, peut-être que tu auras envie de faire d'autres choses. Tu vois, ils m'ont dit de la danse, de la musique, de la peinture, de la photographie. Mais réfléchis et nous, on sera toujours là pour t'épauler, en tout cas, pour être derrière toi. Tu vois, on a eu une discussion, ça a été un peu un électrochoc. Et de là, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me plaît dans ce sport? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de donner de la magie aux gens. Avec des petites tuniques à paillettes, sur de la musique sympa et de faire des figures sur 0,5 cm de là, mais que les gens se disent oh, wow, comment elle fait pour faire ça et tout, c'est trop bien. Et donc je me suis dit ok, bah, ce que j'aime c'est ça, donc bah, je vais le faire sans patin et je vais prendre des cours de chant et des cours de danse.
Ah ouais, donc t'as vraiment eu cette maturité d'identifier ce qui te faisait vibrer et de te demander comment tu pouvais le transposer ailleurs.
Ouais, exactement.
Donc, tu commences des cours de chant, des cours de danse.
Ouais.
Quand est-ce que tu te dis que là aussi, finalement, c'est plus qu'un hobby et que tu veux y consacrer ta vie?
Alors, au début, évidemment, quand je leur ai annoncé ça, un dimanche midi, en plein déjeuner, ma mère s'est étouffée. Quoi? Ils m'ont dit, écoute, OK, bah, si il y a des auditions, des castings, tout ça, on viendra avec toi, parce que j'avais 15-16 ans, tu vois. Mais attention, les études, si ça... De toute façon, les études, ça a toujours été la carotte, entre guillemets. Ouais. Même quand j'étais en primaire, si j'avais pas des bonnes notes, on arrêtait l'entraînement, mais si les notes suivaient, c'était bon, tu vois. C'était un peu le truc. Et donc, mes parents, c'était, voilà, passe ton bac, et puis après, on verra comment ça se passe, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, bah, je passais des auditions, des castings, des choses pour lesquelles j'étais prise, d'autres pas prises. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai fait 2-3 petits trucs. J'avais fait choriste et danseuse pour une émission pour enfants pour France 3. J'avais fait un spectacle pour enfants au Zénith. Voilà, des petits trucs. Et puis bah, ça me plaisait en fait. Tu vois, ce qui me plaisait, c'était d'être sur scène. Je me suis dit, ouais, putain, c'est quand même ça, quoi.
Donc l'univers de la scène vraiment te parlait. Comment tu trouvais à l'époque, je sais pas, je m'essaie de me rappeler à 15 ans, t'avais Internet, mais c'était les prémices, quoi.
À 15 ans?
Ouais.
Ah non, il n'y avait pas Internet.
Ouais. Comment tu trouves alors les auditions?
Eh bien, il y avait un magazine qui s'appelait Casting Magazine.
Ok.
Ouais. Et derrière, il y avait plein de petites annonces pour des films, pour des séances photos, pour des voilà des trucs, des spectacles. Donc voilà. Donc tous les mois, j'achetais ce magazine et je décortiquais les petites annonces. Et oui, s'il n'y avait pas Internet encore.
Tu te souviens du premier casting qui fait vraiment la différence ?
Que j'étais prise, là où j'étais prise.
Ouais, qui marque un peu le début finalement de ta carrière de chanteuse.
Oui, c'était pour un spectacle pour enfants, pour les fêtes de fin d'année, au Zénith de Paris. Et on a fait 6 spectacles en un week-end. J'étais pas du tout connue et je devais chanter donc, la chanson phare du spectacle. Donc j'avais 16 ans. J'étais en stress total parce que j'étais jamais montée sur scène à part faire le spectacle de fin d'année de l'école, quoi, tu vois. Et on fait le premier show. Entre les deux spectacles, parce qu'on en avait trois, on avait un fin de matinée, un début d'après-midi, un le soir. Il y a le producteur qui vient dans ma loge, qui fait « viens vite, les enfants, ils sont dans l'entrée, ils veulent te voir, ils veulent que tu signes les CD. » Parce qu'ils vendaient les petits singles, tu vois, de la chanson à la sortie. Et en fait, je suis arrivée, il y avait une masse de gens, et le producteur a fait, j'ai jamais vu ça. Alors, ça faisait des années qu'il faisait un spectacle comme ça. Il dit, j'ai jamais vu ça et tout. Les enfants, ils sont accros. C'est super et tout. Et je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a 2 heures, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ouais, et là, ouais, je suis en train de signer des autographes, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, putain, il y a peut-être un truc à faire, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça change par la suite? Parce que là, t'es quoi? T'es en seconde?
Je pense que je suis en seconde. Ouais, c'est ça. Seconde.
Donc c'est compliqué, j'imagine, de dire, ok, j'ai potentiellement une carrière qui se dessine. Et d'un autre côté, c'est un peu les 2 dernières années les plus importantes avant de pouvoir faire vraiment ce que je veux, quoi.
C'est ça. Donc pendant 2 ans, je continue les castings et les auditions. Et après, j'ai eu mon bac. Et le deal avec mes parents, c'était... Une fois que tu as ton bac, eh ben, si tu veux, tu peux faire une année par correspondance au CNED. Comme ça, tu peux vraiment
te consacrer
à... Ouais.
Et alors, avant d'arriver dans cette partie de consécration par rapport à la chanson, je me demande, est-ce que, au fond de toi, tu as vraiment réussi à faire le deuil de ce rêve du patinage? Parce que je trouve qu'il y a peu de choses plus violentes que de voir un rêve s'effondrer quand même.
Alors écoute, avec le temps, tu sais, dans la vie, les choses arrivent toujours, enfin ça arrive pas par hasard.
Ça se débat.
Ouais, mais en tout cas, t'en ressors toujours plus forte, différente. Ouais. Si on me disait, s'il y avait un truc à refaire, qu'est-ce que tu referais? Je dirais non, même si j'ai fait des erreurs, même si j'ai fait des conneries, même si c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Bon, j'ai très mal dit la phrase, mais c'est pas grave. Avec le temps... Je me suis rendu compte que finalement, c'était un mal pour un bien parce que peut-être que moi, mon destin, il n'était pas sur des patins, tu vois, mais sur scène.
Et ça, c'est vrai qu'on peut le savoir que des années plus tard. Quoi.
C'est ça. Ouais. Donc, sur le coup, oui, tu vois, j'avais 16 ans, j'étais mal, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, je ne bougeais plus. Et puis maintenant, je me dis, en fait, c'était pas plus mal, quoi, tu vois.
Qu'est-ce que ça t'a appris, cette période de déprime qui arrive quand même assez jeune. Donc c'est assez rare d'avoir une désillusion pareille, tu vois, à 15 ans. C'est un peu l'âge où, au contraire, on se sent un peu invincible, pour ne pas reprendre certaines de tes paroles. Mais ouais, qu'est-ce que ça t'a appris? Comment ça t'a fait grandir?
Ce qui m'a fait grandir, ça a été le après, tu vois. Tout ce que mes parents m'ont dit, et puis de me dire, ok, oui, il y a des coups durs. Dans la vie, tu vas avoir des coups durs. Ça ne va pas forcément se passer toujours comme tu as envie. Mais il faut affronter ces choses-là. Il faut les vivre le mieux possible. Et puis, y a toujours un après qui sera meilleur, quoi. Tu vois, il y a toujours...
Qui sera à construire.
Ouais.
Donc, du coup, tu construis cet après. Donc, tu passes ton bac. Qu'est-ce que tu fais pendant cette année au CNED? Tu choisis quoi? Tu choisis une licence?
BTS, communication, okay, des entreprises.
Ok.
Donc c'était génial parce que j'avais de la pub, du marketing, de la communication et tout et tout. Et donc de temps en temps, j'avais des réunions avec ma maison de disques chez Sony. Et j'aimais bien aller aussi en réunion marketing et tout. Et je me mêlais de choses... Enfin, ils n'avaient pas l'habitude de voir des artistes qui se mêlaient de ces choses-là, parce que j'avais des petits cahiers pour mes cours, et je savais très bien combien coûtait une pub sur telle chaîne à telle heure, tu vois, en prime ou en access et tout. Et donc, quand je leur disais, mais là, vous avez prévu des pubs télé et tout, ouais, non, parce que ça coûte. Non, ça coûte pas ça, ça coûte. Et donc, parfois, je me mêlais de certaines choses. Ils étaient assez étonnés. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là encore?
Pourquoi
elle est là? Mais va chanter, va en studio. Bah ouais, mais non, moi, ça m'intéresse, tu vois.
Et comment ça se fait la signature du contrat avec Sony?
Alors, ça se fait pas tout de suite. Au départ, je rencontre la personne qui va être mon producteur, qui va faire tous mes titres, on va faire tous ces titres-là ensemble. Il s'appelle Johnny, et en fait, il recherche une jeune chanteuse pour interpréter ses titres, et en gros, il cherche la Britney Spears française. Et moi, ça me va très bien parce que Britney, je l'adore à cette époque-là, tu vois.
C'est un peu notre modèle à toutes.
Donc, je vais le voir. Je savais qu'il voyait aussi d'autres filles et tout. Et puis, il me fait écouter une chanson en studio. Et là, il se passe un truc. Je dis, putain, c'est ma chanson. Tu sais, dans mon corps, il s'est passé quelque chose, quoi. C'était près de moi, mon premier single. Et il me dit, bah écoute, prends la cassette, travaille la chanson et on se revoit demain. Je peux te dire que j'ai bossé toute la nuit. Je suis revenue, on a fait des essais en micro et tout. Et ça s'est très bien passé. Il m'a dit, écoute, ouais, bah, je crois que j'ai trouvé ma chanteuse, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Sauf qu'au début, les maisons de disques, elles étaient un peu frileuses. Parce que les maisons de disques, à l'époque, comme aujourd'hui, hein, ne prennent pas trop de risques. Et donc, c'était ni oui, ni non, on sait pas, on verra et tout ça. Et là, Internet arrive et on se dit, ok, il y a une plateforme musicale, on va pouvoir mettre le titre. Et en 2 ou 3 mois, il y a eu 15 000 connexions. Alors aujourd'hui, on les fait en 30 secondes, mais pour l'époque, c'était énorme parce que tout le monde n'avait pas d'ordinateur chez soi, tout le monde n'avait pas accès à Internet. Enfin, c'était quelque chose de grandiose, quoi. Puis c'était de la modernité et tout ça. C'était une nouveauté de se dire, waouh, wow, on met un titre sur Internet, on va se faire découvrir comme ça.
Une très bonne stratégie. Hein. Ça, je trouve, avec le recul, de se dire, ok, si jamais on vous ouvre pas la porte, bah, passez par la fenêtre, quoi.
Ouais, mais c'est un peu mon truc, moi. moi, j'ai toujours fait ça.
Ça s'avère payant comme stratégie.
Ouais, très payant. Et donc, bah, après, ça a été plus facile d'aller voir les maisons de disques en disant « Regardez ce qui se passe sur le titre, il y a un engouement, il se passe quelque chose. » Et donc, voilà, après, on a signé chez Sony.
Ok. Et là, pour toi, qu'est-ce que tu ressens? T'as quel âge? T'as 17 ans?
Là, j'ai 18 ans.
18 ans. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique de signer avec une aussi grande maison de disques?
Ouais, parce qu'en plus, c'était la maison de disques de Michael Jackson.
Ah ouais.
Et que Michael, c'était je connaissais ses chorégraphies par cœur, ses clips par cœur, donc c'était le même label que lui. J'étais là, je fais oh, wow, tu vois.
Et la pression n'est pas trop grande?
Non. En tout cas, j'y allais, j'avais pas de pression. Pour moi, c'était allez, on fonce, on y va, on verra ce qui se passe après, quoi, tu vois.
La consécration. Est-ce qu'elle arrive tout de suite? Est-ce qu'elle met du temps à s'installer? Parce qu'il y a cette signature qui déjà présage quand même d'un bel avenir. Mais est-ce que du jour au lendemain, tu deviens la Laurie que tu vois, on a tous en tête, ou ça s'est construit au fur et à mesure?
Ça a été très vite quand même. Ça a été très vite. Il y a eu le single près de moi. Ouais, c'était la découverte en fait. Tu vois, le public me découvrait avec les clips, en télé. Et après, c'est plus avec le titre « Je serai ta meilleure amie ». Là, ça a été le gros, gros boom. Mais il y a eu une anecdote assez rigolote. C'était mon premier hit machine. Où là, j'arrive devant et il y avait le public qui attendait, qui faisait la queue pour rentrer. Et l'entrée des artistes était juste à côté. Et il y avait du public qui se mettait devant parce qu'ils voulaient des photos, des dédicaces, des artistes qui arrivaient. Et moi, j'étais là, pardon, excusez-moi, pardon, pardon. Et il y en avait qui disaient, non, mais la queue, pour le public, c'est là, quoi. Non, non, mais je vais là, je vais chanter. Et les gens me regardaient, mais t'es qui? Tu fais quoi? Enfin, tu vois, c'était qui es-tu, tu vois?
Ouais.
Je fais ma chanson au Hit Machine, je ressors. Et là, ces mêmes personnes, oh, des photos, dédicaces, tu vois, c'était un peu la boîte magique, en fait. Tu rentres tes personnes, tu fais ton truc, tu ressors, et là, t'es plus la même, quoi. Aux yeux des gens, c'est ça qui est étrange.
Et ça, comment tu arrives à t'en prémunir, entre guillemets, de cette superficialité, il n'y a pas de terme, hein, de cette superficialité de l'industrie qui ne te considère que par rapport à la notoriété que tu peux avoir.
Oui.
Ça doit te faire bizarre, parce qu'en fait, toi, jusqu'à présent, t'es l'or, tes amis, ta famille t'aiment pour qui tu es, et tu deviens Laurie, celle qu'on aime parce qu'elle est célèbre et parce que elle a l'impact qu'elle a à ce moment-là. Ça doit être un peu difficile à vivre, non ? Surtout pour une ado, une jeune femme de 18 ans.
Bah après, c'est vrai que tu fais rapidement la différence entre ta famille, tes amis et les connaissances que tu vas te faire dans ce milieu-là, des gens qui vont se dire tes amis, mais qui sont là pour pas forcément les mêmes raisons que tes vrais amis. On s'en rend compte quand même assez rapidement.
Ok. Ouais. Donc, t'as pas trop de désillusions au début ?
De désillusions, écoute, non, ça va arriver plus tard.
Ça arrive toujours à un moment donné, malheureusement.
Eh ouais, c'est ça.
Donc, tu fais en effet ta meilleure amie un an plus tard, je crois, c'est ça, à 19 ans.
Ouais.
Ça te fait quoi de devenir presque du jour au lendemain la star préférée des jeunes ?
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ouais, j'avais envie de véhiculer des titres, des valeurs. J'avais envie, comme dans le patin, de faire rêver les gens, en fait. J'avais envie de montrer aux jeunes qu'on peut réaliser son rêve aussi. Je venais d'en louper un, mais c'est possible. Tout le monde peut y arriver, tu vois. Une petite gamine de banlieue parisienne qui devient chanteuse, alors que j'ai pas la voix de Céline Dion. Tu vois, il faut y croire, quoi. Il faut croire en soi. Et donc, j'étais assez... assez contente, assez fière, et puis j'avais envie de donner du bonheur aux gens, en fait.
C'est marrant parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de downside, qu'il n'y a pas d'aspect négatif à cette sur-célébrité des jeunes années.
Alors, après, ce qui est compliqué, c'est que t'as un planning un peu chargé, tu vois moins tes copines, ou alors quand, par exemple, j'avais du temps de libre, je les appelais, c'est cool, aujourd'hui j'ai rien, on va se faire, on se fait une journée shopping ou on va chez toi, elle fait, moi j'ai cours là, je suis à la fac, venez, on part en vacances et tout, mais moi j'ai pas de thunes en fait. Donc j'avais une sorte de décalage aussi par rapport aux jeunes de mon âge.
Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr qu'à mon avis t'as fait tout plus vite finalement que tout le monde. Donc ça, c'est 19-20 ans. À quoi ça ressemble tes journées, là, quand t'es chanteuse du jour au lendemain ? J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui fantasment aussi un peu ce quotidien. À quoi ça ressemble dans les faits ?
Alors, quand j'ai 19-20 ans, je suis encore chez mes parents. Et ensuite, mon quotidien, c'était soit des journées en studio pour enregistrer les titres, soit des journées de promo, soit en séance photo, soit en tournage de clip, soit en tournée. Donc voilà, ça a été pendant 8 ans. Je crois que j'ai fait une année un album, une année une tournée, une année un album, une année une tournée. Donc ça a été à fond pendant 8 ans, en fait. Je me suis pas posée une seule fois.
Et comment alors tu t'assures que tu es alignée quand tu as toujours la tête dans le guidon ?
Quand le matin tu te lèves et que même si tu es super fatiguée, tu es quand même contente de te lever et que tu te dis putain, je vais passer une journée de dingue parce que je vais faire ça. Tu vois, quand le matin tu te lèves et que tu fais ouais, même si tu as la tête dans le cul.
Et ça, tu l'as eu pendant 8 ans ?
Ouais. Ah ouais.
À quel moment tu te rends compte que tu l'as plus ?
Quand tu te lèves le matin et tu te dis « Putain, ça fait chier
ouais, !»
ouais.
Et toi, à quel moment c'est arrivé ? Si c'est arrivé ?
C'est pas vraiment arrivé par rapport à la chanson, c'est arrivé par rapport à l'équipe avec laquelle je travaillais. Tu vois, il y a eu des changements d'équipe dans mon label, et après on ne s'entendait plus du tout, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Il n'y avait plus ce travail d'équipe qui était pour moi vraiment important. Tu vois, être chanteuse... Tu peux pas faire ça toute seule, quoi. Sinon, tu chantes sous ta douche.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Mais pour en arriver là où j'étais, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, mon équipe, je l'avais perdue, en fait. Après, ça a été très compliqué.
Comment tu l'expliques, avec le recul ?
Bah, c'est juste qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui avaient envie de travailler avec d'autres artistes. Et ils avaient moins de vision pour mes projets, moins d'envie, moins de... Voilà, alors que moi, je commençais à arriver dans une période où c'était un peu compliqué parce que c'était un changement musical avec de l'électro, un peu plus mature, un look un peu plus sexy. Et donc, je leur avais dit, voilà, moi, je fais un changement. Ça va être long. On va perdre du public, des fans. Mais si on est intelligent et qu'on voit au long terme, on va y arriver tous ensemble. Et ils n'ont pas du tout suivi. Et donc, ça s'est très mal passé. Et je suis partie de mon disque, tu vois.
Donc eux, ils préféraient que tu gardes l'image que tu avais toujours eue, sans forcément que tu évolues comme toi, tu étais en train d'évoluer aussi en tant que personne, quoi.
Ouais, bah, en fait, je pense que ces gens-là qui sont arrivés, ils n'avaient pas d'attente, en fait. Ils s'en foutaient. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas... eux, ils voulaient arriver avec leurs artistes, développer leurs artistes. Et puis moi, j'étais pas leur priorité, en fait. Mmh. Donc... Je peux même pas te dire s'ils avaient une envie pour moi. Je crois pas.
Et donc là, tu décides, toi, de monter ton propre label.
Ouais. Bah, en fait, j'avais déjà ma boîte de prod.
Ouais.
Que j'avais montée au moment de Ta meilleure amie, peut-être.
Ah oui, donc très
très tôt. Très vite. Et donc, avec cette boîte, voilà, on est déjà, tout de suite, on était coproducteur des tournées, on faisait le merchandising, enfin, on faisait pas mal de choses. Mais au niveau disque, ça restait production avec Johnny et Sony, tu vois. Et donc, de là, je me suis dit, voilà, on a notre label, bah, pourquoi pas faire les choses tout seul ? Parce que j'étais tellement dégoûtée, je te jure.
J'imagine. Ouais, j'imagine. Et surtout quand t'avais confiance en plus dans les personnes. Enfin, l'humain, c'est toujours ce qui te blesse le plus au final. Et là, c'est finalement aussi un autre métier. Comment tu l'apprends ? Comment tu réussis à incarner cet aspect de l'industrie que t'avais jamais finalement géré jusqu'à présent ? Parce que y a des gens qui le faisaient jusqu'ici très bien.
Bah ouais, c'est ça. Bah, par rapport à ce que... je voyais par rapport à ce que j'avais vécu aussi. Je suis assez curieuse, donc j'aime bien regarder, écouter, voir, poser tout plein de questions. Et puis parfois, il y a des trucs où on s'est planté, il y a des trucs qu'on a très bien fait. Mais on apprend sur le tas, quoi, tu vois. Allez, on y va. Bah, on y va. De toute façon, on n'a pas le choix.
Comment tu vis les erreurs que tu commets ?
Alors, sur le coup, je suis très énervée. J'ai dit, mais pourquoi ? Et puis après, j'essaye d'analyser et après, j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs.
Ouais, le processus de deuil.
Exactement.
L'acceptation au final. Et comment tu progresses au fur et à mesure de ces années ? Là, je pense à ces 8 années où tu es à fond, où c'est album tourné. Est-ce que tu cherches cette amélioration ? Quel est un peu toi, ton état d'esprit ? Parce que c'est sûr, il y a la vision que les gens ont pour toi, mais toi, comment est-ce que tu le vois par rapport à toi-même, quoi ?
Bah moi, je voulais toujours aller plus loin. Toujours donner mieux, toujours donner plus, avoir des nouvelles idées, surprendre les gens, toujours encore plus. Tu vois, c'était à chaque fois, il fallait aller step by step, quoi. Mais fallait toujours monter, quoi.
Et avec le recul, est-ce que tu penses que cette recherche était saine ?
Bah oui, parce que en même temps, c'est de se remettre en question à chaque fois, essayer de donner le meilleur de soi-même à chaque fois et même mieux. Donc ouais, je trouvais que c'était assez sain comme réflexion, tu vois.
Et qu'est-ce qui aurait pu du coup permettre ? Est-ce que tu penses qu'un jour tu aurais pu atteindre un stade où tu te dis là, je suis satisfaite ?
Je crois qu'on n'est jamais satisfait. Je crois qu'on n'est jamais satisfait parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à changer, il y a toujours des choses qu'on peut faire différemment. On n'est jamais satisfait. Puis il y a des jours où on va être un peu plus fatigué, il y a des jours où ça va aller mieux. C'est comme quand tu fais une chanson. À un moment donné, il faut dire stop parce que tu peux toujours changer des trucs. Un soir, tu sors, tu dis « Ok, bon là, t'écoutes le titre, tu fais « Ok, c'est bon, bah là, c'est nickel et tout, machin. » Et le lendemain, tu reviens et puis tu es dans un autre mood et tu dis ah bah attends non, je vais changer ci, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça, alors que la veille pour toi il était nickel. Mmh. Tu as toujours, en fait, dans le milieu artistique, je pense que tu as toujours un truc à.
Il faut accepter l'imperfection.
Ouais, exactement. Finalement. Exactement.
Et alors, sachant que tu as cette recherche continue d'amélioration et puis de plus et d'aller chercher plus loin, il y a une étape là dans ton parcours qui m'interpelle, où je me dis ça doit quand même être dur à vivre, surtout quand on a ces aspirations. C'est donc quand ta dernière tournée est annulée.
Ouais.
Je sais plus comment elle s'appelle.
Ouais.
Comment tu le vis, en fait, tout simplement, parce que c'est finalement assez opposé,
ouais,
à cette recherche d'aller toujours plus haut que tu recherchais.
Ouais, et bah, encore une fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi on a fait cette erreur-là, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait assez de pubs, on n'avait pas assez communiqué sur la tournée, sur les concerts, et qu'il manquait quelque chose pour que, voilà, pour que ça remplisse. Mmh. Parce que quand j'allais faire des séances de dédicace, tout le monde me disait « Mais alors, quand est-ce que vous faites un concert ? Nous, on va venir, ou nous, on sera là. » Et quand, après, j'ai fait un post pour dire « Voilà, bon, bah, finalement, ça va être annulé. » J'ai préféré dire aussi la vraie raison, parce qu'il y a plein d'artistes qui font « Je suis malade, je vais annuler. » Mais je préférais être sincère, parce que je l'ai toujours été avec mon public. Et ouais, c'était... j'ai fait un post, et puis après, on m'a dit « Mais non, mais j'étais pas au courant, mais moi, je serais venue, et tout. » Enfin, tu vois, j'ai eu des milliers de messages en disant « Mais non, mais on n'a pas... » Donc, je pense que c'était, cette erreur-là, c'était une erreur de communication. Mmh. Voilà, tout simplement.
Et personnellement, tu le vis comment ?
Bah, sur le coup, pas bien, parce que c'est toujours... tu te fais un plaisir de monter sur scène, de réfléchir à des mises en scène et tout. Et moi, j'adore ça, construire un show. Et de se dire que, ouais, on va retrouver le public, ça va être génial et tout ça. Et c'est les montagnes russes, tu vois. Mmh. Donc, c'est toujours compliqué, mais il faut essayer d'en tirer la leçon.
Ouais, ouais, ouais. Ça aboutit à quel changement ? Dans ton parcours, c'est à ce moment-là que tu décides d'aller explorer plus aussi l'industrie de la comédie, du cinéma.
Je crois que c'était un petit peu avant. J'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'était un peu avant, en fait, cette envie de faire de la comédie et de jouer dans des téléfilms. En fait, c'était à force de tourner des clips. Bon, tu joues parfois, tu fais. Il y a plein de playback et tout ça, tu vois, mais dans les clips. Mais il y a parfois des petites scènes que tu dois jouer. Et puis, je faisais aussi beaucoup de doublage de voix pour Disney. J'avais fait Les Indestructibles, toutes les fées clochettes.
Ah,
ouais.
Sympa.
C'est moi la fée clochette. et donc, j'avais envie d'aller plus loin. Et de là bah, comme je ne suis pas du genre à attendre que ça arrive, j'avais écrit une sorte de petit synopsis. Et je suis allée taper aux portes de TF1 en disant « Regardez, j'ai un super scénario, c'est super, j'ai une super idée. On va faire un truc ensemble. » Ils l'ont lu, ils m'ont dit très gentiment « Écoute, ça coûterait trop cher de faire un téléfilm sur ce sujet-là. » Je pense que c'était une façon délicate de dire « Écoute, ton histoire, c'est pas ça. » Mais si t'as envie de jouer, on te présente une production et on écrit quelque chose pour toi. » Et je dis « Bah go, on y va. » Okay. C'est parti. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai rencontré des producteurs. On a écrit Deux Feuilles de Glace, qui était une sorte de Rocky patineuse.
Mmh.
Et ça a cartonné. Puis après, j'en ai fait un deuxième. Puis après, j'en ai fait un troisième. Et voilà comment ça s'est passé.
Donc, t'es remontée sur des patins pour...
Ouais. Ouais, ouais. Au début, la prod et la réalisatrice m'avaient dit « Non, mais attends... Déjà pour des questions d'assurance, tu vas être doublé et tout. » Je fais « Quoi, je vais être doublé ?» Non, 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 je ne vais pas être doublé. Je vais reprendre l'entraînement. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire, c'est sûr, tu vois, le double axel, des triples sauts et tout ça. Mais dans le téléfilm, il y a beaucoup de choses, toutes les arabesques, attitudes, les pirouettes cambrées, tout ça, c'est moi. Et j'étais trop contente. J'avais dit « Alors, je voudrais aller m'entraîner dans la patinoire où je m'entraînais quand j'étais petite, avec ma prof de l'époque.
Mmh. »
Et là, c'était génial, parce que de revenir sur les patins pour tourner un film, La boucle était bouclée. C'est
un beau pied de nez
ouais, voilà,
ouais, à ce qui s'est passé et à comment on peut rebondir. Quoi.
Ouais, exactement.
Comment tu apprends ce nouveau métier aussi, qui est le métier de comédienne ?
Alors, le truc, c'est que une fois qu'on avait écrit le scénario et tout de Feuilles de glace, à un moment, je dis, mais attendez, moi, j'ai jamais joué. Et tout le monde va m'attendre au tournant. Parce qu'à l'époque, des chanteurs qui jouaient à comédie, il n'y en avait pas, en fait. Et on sait très bien qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Mmh. Et quand t'es chanteuse pour enfants, tu ne peux pas être chanteuse pour adultes. Quand t'es chanteuse, tu peux pas être comédienne. Quand t'es comédienne, tu peux pas être chanteuse. Enfin, bon, bref. Et j'ai dit, mais là, moi, il faut me coacher. Il me faut un prof. Il faut que je sois bonne, quoi. Mmh. Tu vois. Et donc, ils m'ont présenté un coach et on a travaillé ensemble le personnage, ses émotions et tout. Surtout que je joue une petite peste, quoi, tu vois, et qui crie sur beaucoup de monde et qui s'énerve beaucoup. Et ça, ça a été le truc à bosser.
Parce que t'as pas l'air d'être dans la vraie vie, quoi.
Ah non, ah, pas du tout. Et le coach, tu vois, on travaillait, on allait. Alors aujourd'hui, on va travailler telle scène. C'était la scène que j'appréhendais le plus. Ouais, ok. Bon. C'est quand la dernière fois que tu t'es énervé ? Et là, je réfléchis. Et je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas. Je dis, bah non. Il fait, mais tu t'énerves jamais ? Je fais, bah non. Maintenant, un peu plus quand même. Hein. mais non, ça a été, tu vois, faire sortir cette émotion-là de moi, ça a été compliqué.
C'est comme ça aussi qu'on sort de sa zone de confort.
Ouais, exactement.
Et qu'on apprend.
Exactement. Moi, j'adore. Enfin, ouais, tu vois, ouais. Apprendre plein de choses et tout. Et... Mais voilà, il fallait que je prenne des cours. Il fallait que je bosse avant.
Comment tu arrives, hier comme aujourd'hui, à trouver l'équilibre et le temps pour ces différentes activités que tu mènes ? Parce que donc tu fais à la fois de la comédie, à la fois de la chanson, à la fois maintenant aussi du journalisme, de l'écriture. Comment tu arrives à faire de la place pour tout ça ?
Faut être championne de Tetris dans le planning.
Très bon conseil.
Ouais, c'est ça. C'est juste une question d'organisation. Et puis de se dire, voilà, bon là j'ai tel projet, je me consacre à ça. Ou parfois, bah, même des choses, tu vois, des projets qui tombent au dernier moment et on se dit, ah bah tiens, je peux pas dire non, donc hop, ça se greffe un peu. Mais c'est juste une question d'organisation, une question de priorité, une question d'envie aussi.
Et qu'est-ce qui a fait que récemment tu as eu envie de remettre la chanson au goût du jour ?
Parce que ça manque un peu quand même. Ça manque. Il y a eu les 20 ans.
Ouais.
Et oui. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. En fait, à la base, je voulais vraiment faire quelque chose pour les 20 ans. Et puis, bah, y a eu le Covid. Mmh. Et puis, il y a eu ma petite. Mmh. et puis, en parallèle, j'ai pu racheter tout mon bac catalogue à mon ancien producteur, tout ça. Ça a mis quelques temps aussi que les avocats se mettent d'accord. Parce que je n'avais pas envie de faire une Taylor Swift. Donc voilà, il y avait tout ça, ça a pris un petit peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave, parce que je me dis que moi, je ne fête jamais mon anniversaire le jour même.
Pourquoi ?
Souvent après, bah, ça tombe jamais bien. Ah ouais. Le jour, il est jamais...
Y a dispo.
Tout le monde n'est pas forcément
c'est
dispo.
C'est quand ton anniversaire ?
Le 2 mai. Voilà. D'accord. Donc notez-le dans vos agendas. Voilà. Envoyez-moi plein de cadeaux. Mais voilà, et je me dis, c'est pas grave, et donc on sort ce projet-là maintenant.
Bah, dis-nous en plus, quel est ce projet ?
Eh bien, oui. Eh ben, écoute, c'est un projet d'anciens titres qu'on a réenregistré, réorchestré, tu vois. On a tout refait. On est reparti de zéro. Et surtout, je suis en duo avec la jeune génération qui était fan à l'époque. En fait, je voulais faire quelque chose pour les 20 ans, mais le tilt, ça a été... de voir tous ces jeunes artistes dire dans des interviews « Moi, mon premier concert, c'était Laurie. J'étais fan de Laurie. Ma chanson préférée, c'était Ta meilleure amie. » Et de voir ces artistes-là dire ça dans les médias, et c'est des artistes que j'adore, en fait, tu vois. Et je me suis dit « Waouh, putain, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. » Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est parti, cette idée.
Et comment tu vois alors, du coup, les mois à venir, là tu aspires à retrouver la scène ? Parce que j'imagine, voilà, avec maintenant aussi les docus que tu présentes, etc., il y a quand même aussi parfois cette réalité où c'est difficile, on doit faire des choix, choisir c'est renoncer quoi. Donc
oui. Oui, il y a des choses. Bah là, pour l'instant, les documentaires santé, ça y est, on en a fait deux. On va voir si on en refait ou pas.
Ouais.
La comédie, bah, ça dépend des projets. Là, je suis en train de tourner un guest pour Astrid et Raphaël, qui va être diffusé l'année prochaine. Je fais de la réalisation aussi. Donc tout ça, oui, c'est des choix. Mais là, ma priorité, c'est ce projet-là. C'est ma priorité, c'est mon petit bébé. Et voilà, et c'est vrai que bah là, il y a cette EP-là qui sort avec, en duo avec, avec les jeunes la jeune génération. Il y a un deuxième EP qui va sortir aussi en début d'année, qui va être avec des remixes. Okay. Des remixes par des DJ là, qui cartonnent, des petits jeunes que j'adore. Et puis, voilà, tout au long de l'année 2024, il va y avoir plein d'autres surprises.
J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ?
D'écrire des livres ?
Ouais.
Écoute, je suis très... alors, à l'époque, je lisais beaucoup. Maintenant, avec ma fille, j'ai un peu moins le temps, mais j'ai toujours aimé lire. Et dernièrement, ces dernières années, j'aimais beaucoup, beaucoup écrire... Enfin, lire des livres de développement personnel. Je trouvais que ça m'apportait... à chaque fois, je trouvais des clés à des situations dans la vie et ça m'aidait beaucoup. Et donc, un jour, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, tu vois. Moi, il y a plein de choses qui m'aident dans la vie et j'aimerais les aider, j'aimerais les partager pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi.
Mmh.
Et voilà, je me suis lancée. J'ai contacté des éditeurs. Donc au début, c'était assez rigolo parce qu'ils me disent, tu sais, normalement, les artistes comme toi, c'est pas toi qui écrives, on fait des interviews, il y a des gens qui écrivent. Moi, je dis non, mais là, je voudrais vraiment le faire, sinon ça sert à rien. J'écris un chapitre, on regarde ce que ça donne. Si vraiment je suis nulle, bah, on le fait pas. Et puis si ça fonctionne, on voit comment ça se passe. Tu vois.
Mmh.
Et puis ça a été très bien. Et donc, il m'a présenté quelqu'un avec qui m'aidait. En fait, j'écrivais mes chapitres, je lui envoyais. Et elle me disait, bah, tiens, ce passage-là, il faudrait que tu approfondisses un peu plus. Tiens, ce passage-là, j'ai pas très bien compris. Celui-là, je le mettrais plus en haut du chapitre. En bas. Donc elle m'aidait.
Une éditrice, quoi. Hein, tout simplement.
Exactement.
Hein. Mmh.
Et j'ai trouvé ça génial et j'adore. Et je continue.
Ouais, et ce premier livre, c'était sur ce que, en lisant, tu vois, l'interview, tu disais que cet accident de patin avait été le drame de ta vie. Moi, en me renseignant sur ton parcours, ton histoire, j'ai l'impression que le drame de ta vie, c'est l'endométriose.
Ah oui, aussi.
Aussi. Ce sur quoi tu as voulu écrire, du coup.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que c'est à ce moment-là que tu as choisi de t'ouvrir sur ce sujet très personnel?
Quand je me suis rendu compte que ça allait pouvoir aider d'autres femmes. Moi, je me suis retrouvée dans l'inconnu, dans le doute, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir qui aller voir. J'étais vraiment perdue quand j'ai su que j'étais atteinte de cette maladie.
Tu l'as su au bout de combien de temps? Parce que souvent, il y a une errance médicale qui
ouais.
est...
Normalement, l'endométriose est diagnostiquée au bout de 7 ans. Ce qui est juste énorme parce que la maladie a vraiment le temps de se propager. Moi, ça a été, ouais, ça a été peut-être 5-6 ans.
Et ça ressemble à quoi, ces 5-6 années non diagnostiquées?
Douleur. Douleur atroce. Ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir sortir de son lit, ne plus pouvoir penser, rien faire. Rien faire. C'était vraiment des douleurs atroces à en tomber dans les pommes.
Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Quelle solution, quelle alternative tu imagines?
Bah, y en a pas, en fait, parce que tout le monde te dit que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles et que c'est comme ça. Donc, t'essayes tous les antidouleurs qui puissent exister. Tu te dis, j'espère que j'en trouverai un qui va me soulager. Jusqu'à ce qu'on donne un nom à ce que t'as vraiment. Et là, tu te dis, putain, en fait, je suis pas folle, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et de là, j'ai eu la chance de croiser Laetitia Milo, qui en avait parlé à ce moment-là, qui commençait tout juste. Et là, je lui dis, écoute, Laetitia, je suis atteinte aussi d'endométriose. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui aller voir, je ne sais pas. Et elle m'a donné les contacts de Yasmine, qui est la présidente de Endo France. On est resté 2 heures au téléphone. Elle a répondu à beaucoup de mes questions et elle m'a présenté le professeur qui me suit aujourd'hui. Et de là, j'ai eu beaucoup de chance parce que ils m'ont demandé de faire plein d'examens, des IRM et tout ça. J'avais fait un IRM il y avait déjà un an de ça. Et je dis, OK, je vous envoie le compte-rendu. Ils m'ont dit, non, on ne veut pas le compte-rendu, on veut les vraies images. Parce que le radiologue qui m'avait passé l'IRM, un bip, excusez-moi, mais voilà, un gros... voilà, qui me répondait mal quand je lui posais des questions, qui m'envoyait balader, qui me prenait de haut, ouais, ça va, c'est bon, en ce moment, tout le monde a l'endométriose, c'est la mode, voilà, bref. Au final, pour lui, il n'y avait pas grand-chose. En vrai, il fallait m'opérer tout de suite. Quand le professeur a vu les images et qu'il a vu que ça faisait déjà presque 10 mois que j'avais fait ces IRM, il m'a dit, mais je vous opère en urgence. Et heureusement qu'il m'a opéré à ce moment-là, parce que bon, déjà, je m'en sors pas mal. Il a dû couper des bouts de l'utérus, il a dû me couper des bouts du tube digestif. Mais il m'a dit, on faisait ça un mois plus tard, je ressortais avec une stomie, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'ai une poche pour mes excréments pendant 3 mois, parce que au niveau du tube digestif, ça commençait à vraiment, vraiment grignoter. Donc, je m'en sors vraiment pas mal. Mais comme quoi, parfois, on tombe sur des abrutis qui pensent tout savoir et qu'en fait, pas du tout.
Mais c'est fou, moi je ne comprends pas comment on peut à ce point-là déconsidérer les patients.
Enfin, oh là là, mais change de métier.
En fait, tu vois, c'est limite s'il l'avait pas vu.
Oui. Ouais,
bon, mais enfin, là c'est sur les images quoi. C'est volontairement ça. Te laisser dans, enfin, en mauvaise santé, alors que le but c'est de te guérir.
Ouais.
Mais
ouais.
En effet, on peut pas malheureusement tout expliquer.
Non.
C'est à quel âge que tu fais cette opération ?
35.
Donc c'est assez récent au final.
Ouais.
Et c'était avant ou après d'avoir ta...
Avant ma fille.
Avant ta fille. Et ça change quelque chose dans ton parcours de fertilité ?
Bah, ça a été ma première question. Quand il m'a dit « j'ai dû vous couper des bouts de l'utérus », j'ai fait « oh là là, mais est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte, en fait ?» Il m'a dit « oui, vous inquiétez pas, c'est vraiment à l'extérieur et tout. Normalement, il n'y a aucun souci. » Mais l'endométriose, c'est une maladie qui est contraignante pour avoir des enfants, en fait. Donc, à cause de ça, il y a pas mal de grossesses extra-utérines, parce que voilà, ça se niche où il ne faut pas. C'est compliqué, parce que pour ne plus avoir mal et pour que la maladie ne se propage plus, on nous met sous traitement hormonal une sorte de pilule en continu. Donc, on n'a plus de règles, mais pour avoir des enfants...
Il faut avoir des vraies règles.
Donc, on arrête ce traitement-là. Et donc, le temps qu'on essaye pour avoir des enfants, les règles reviennent et la maladie se propage. Donc, c'est un peu compliqué.
T'as fait, toi, une grossesse extra-utérine ?
J'en avais fait une, oui. J'en avais fait une.
Ça se manifeste comment ?
La grossesse extra-utérine ?
Ouais. Comment tu sais que c'est une grossesse extra-utérine ?
En fait, j'avais plus de règles.
D'accord.
Donc, je me dis, oh, c'est bizarre. Je fais un test de grossesse. Oh, je suis enceinte et je vais voir la gynéco qui me dit non, en fait, vous n'êtes pas enceinte parce que je le vois pas. Et je fais si, le test a dit on va faire une prise de sang, on va voir. Et effectivement, j'étais enceinte, mais sauf que ça s'était niché où fallait pas, tu vois. Je sais plus où c'était, dans une trompe ou je sais pas où. Et donc, elle me dit, il faut l'enlever, quoi. Enfin, donc, piqûre, je sais plus c'était quoi. Elle dit, soit on vous opère. J'ai dit, non, ça va, j'en ai déjà ma dose. Soit on vous fait par médicament. Mais quand même, restez tranquille, parce que pendant 2-3 jours, il va se passer des choses étranges dans votre corps. Donc, je reste chez moi. Et au bout du deuxième ou troisième jour, là, j'ai des douleurs, mais je m'évanouis encore. Et là, j'appelle, je dis, là, je crois qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle fait, ah oui, effectivement, venez. Et donc, je vais le voir. Il m'ausculte, il dit, vous êtes en train de faire une hémorragie. Vous allez à l'hôpital, je vous opère tout de suite, dans 2 heures. OK, ça continue, c'est super. Donc, voilà, c'est des contraintes.
Ouais, donc un parcours du combattant. Et est-ce que tu en veux à ton corps ?
Non. Non, parce que... Le pauvre, je lui en ai demandé beaucoup. Et au contraire, c'est moi qui m'excuse. Parce que déjà, rien qu'avec le patinage, les opérations du genou, Je l'ai vraiment maltraité, en fait, ce corps, tu vois. Je ne l'écoutais pas, je continuais, j'avais des douleurs, je continuais. Donc c'est plutôt moi qui m'excuse et qui maintenant en prend un peu plus soin.
Qu'est-ce qui a changé ta vision des choses par rapport à ça, par rapport à ton corps ? À le voir plus comme un outil que tu peux exploiter, mais comme un temple qu'il faut préserver.
Ouais, bah parce que... Au début, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait opérer du genou, je me suis fait opérer du pied, je me suis fait opérer du poignet, je me suis fait opérer d'endométriose. Je me dis, mais attends, mais fais gaffe, parce que si tu n'en prends pas soin, ça, il va vraiment se casser, puis tu ne pourras plus rien faire, quoi. Si je peux plus porter ma fille, ou si je ne peux plus courir, jouer avec elle, ou quoi, ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, je me suis dit, waouh, stop, stop. Et le jour aussi où je suis tombée enceinte, et là, je me suis dit, waouh. Mon corps, il est magique, en fait. Mon corps, il est là depuis que je suis née. Je lui en demande beaucoup. Et en fait, il a toujours été là. Et on est des compagnons de vie, quoi. Mmh. Et donc, il faut vraiment en prendre soin. Vraiment, vraiment, vraiment.
Tu te souviens de ce que tu as ressenti le jour où tu as su que tu étais enceinte ? Et que cette fois-ci, il était bien dans l'utérus.
Ouais, tu sais, à cause d'endométriose, on a dû faire une FIV.
Ouais.
Mais le jour où j'ai vu le test de grossesse et tout, j'avais envie de le dire à tout le monde. Mais j'étais là, je gardais, parce que je me disais, s'il se passe quelque chose Mais j'avais envie de crier au monde entier, quoi. C'était quelque chose de... Enfin, ouais, mon plus gros combat, quoi.
Comment ça s'est passé, ta grossesse ?
Alors, les 3 mois, horrible. Les 3 premiers mois. Mais horrible, 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 horrible. J'avais encore des piqûres d'hormones. Et je crois que j'étais un peu surdosée. Et donc, c'était les montagnes russes, quoi. J'avais envie, un coup, j'éclate de rire. L'autre, 5 minutes après, j'avais envie de sauter par la fenêtre. J'avais des nausées, tu sais, du matin jusqu'au soir. Je ne vomissais pas, hein, mais j'avais des...
Ah ouais,
les seuls pire, ouais, c'est ça. Les seuls moments où ça s'arrêtait, c'était quand je mangeais. Donc, j'ai pris 18 kilos. Tu vois,
ça peut mal par le mal.
Écoute, à un moment donné, je me disais, ah, c'est pas grave. Hein. Le seul moment où t'as le droit de faire ce que tu veux, c'est un peu... Et là, ça a été, au bout de 3 mois, dès que j'ai arrêté les piqûres d'hormones, ça a été nickel.
Et t'as écrit et t'as partagé, je crois qu'il y a un docu qui est sur ce sujet, sur le sujet du postpartum.
Ouais.
Donc, finalement, c'est là que tout commence. Je pensais c'est avoir ça. Douillé pendant la grossesse, mais c'était que le début.
C'était rien du tout.
Comment tu le vis et est-ce que tu y étais préparée ?
Alors, écoute, non. On n'est pas vraiment préparé. Et moi, j'ai eu un postpartum plutôt cool. Hein. Franchement, c'était vraiment, vraiment cool par rapport à d'autres femmes que j'ai pu interviewer et qui m'ont parlé de la dépression du postpartum, des fuites urinaires. Donc, ça a été, pour moi, ça a été plutôt cool. Mais c'est vrai que quand on te renvoie chez toi avec ton bébé, bah, c'est tout nouveau. Il se passe plein de choses. Déjà, ton corps, il faut qu'il se remette. Des grossesses, de l'accouchement, de la grossesse, des accouchements et tout ça. Psychologiquement, hormonalement aussi, il se passe plein de trucs. Un changement de vie, un changement au quotidien. Donc, on n'est pas assez préparé. Franchement, on n'est pas assez préparé.
Comment tu penses qu'on pourrait être mieux préparé ?
Bah avec des sages-femmes, avec des médecins qui nous en parlent plus, avec des émissions à la télé, avec... Aujourd'hui, il y a plus de choses, par exemple, sur Instagram, tu peux aller voir, il y a plein de profils, de femmes qui parlent de tout ça. Mais pour le grand public, je pense qu'il faut encore en parler plus.
Démocratiser.
Ouais.
Comment tu essayes d'être une bonne mère ? Parce que c'est vraiment le... Je me dis, bon, alors moi, je ne le suis pas, mais je vois de l'extérieur, pas de mode d'emploi, j'imagine toujours peur de mal faire, très facile de tomber dans le piège de la comparaison, tout le monde qui donne son avis. Donc, est-ce que tu as réussi à aborder ce nouveau métier, j'ai envie de dire, sereinement ? Ouais.
Écoute, c'est vrai que c'est pas facile. Après, quand on est parent, tant qu'on agit avec le cœur et avec amour pour son enfant, je pense qu'on est un bon parent, en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, il y a des moments où on fera mieux, il y a des moments où on fera moins bien, il y a des moments où on va être fatigué, il y a des moments où on aura moins de patience, mais on est des êtres humains aussi et ça n'existe pas, les parents parfaits.
Mmh.
Ça n'existe pas, on est humain et après, il faut juste savoir communiquer. Et c'est vrai que moi, parfois, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de m'énerver parce que j'avais une journée de merde. Et puis ma fille était là, et puis elle était pour rien, tu vois. Et donc après, voilà, je l'ai prise. J'ai dit, écoute, excuse-moi, je me suis énervée, c'était pas contre toi. Mais je pense qu'il faut faut s'écouter, encore une fois.
Et faire preuve de bienveillance.
Voilà, exactement. Ouais.
Est-ce que l'opération que tu as subie là, quand tu as fait l'hémorragie, c'est celle qui fait que désormais tu ne peux plus avoir d'enfant? Ou ça a été encore
autre? Non, ça a été autre chose.
Parce qu'en effet, j'ai lu du coup que tu as ouais. eu cette opération.
Hystérectomie.
Hystérectomie,
c'est ça. Ouais, un nom bizarre.
Qu'est-ce qui fait que tu as subi cette énième opération?
Tout simplement parce qu'après l'accouchement, les douleurs sont revenues, mais de plus belle. Et là, je pouvais plus. Franchement, je pouvais plus. Et mon compagnon m'a dit, écoute, là, c'est plus possible. Donc, on a longtemps parlé pour savoir si on voulait un autre enfant. Yann, lui, avait déjà un petit garçon qui a 12 ans. Donc, à la maison, on a un garçon, une fille. On s'est dit, c'est cool. Oh. C'est déjà bien, tu vois. On a quand même des métiers où si on bouge un peu dans tous les sens. Et moi, je me voyais pas repartir avec des piqûres d'hormones, une nouvelle FIV et tout. Franchement, c'est épuisant. Donc, on a pris la décision que donc je me fasse opérer. Parce qu'en plus de l'endométriose, j'avais de l'adénomyose, qui est la cousine de l'endométriose, sauf que c'est dans l'utérus. Et là, le seul moyen de l'enlever, c'est d'enlever l'utérus. Donc, ça a été... voilà, on s'est dit, allez, ok, on y va. Décision pas facile à prendre, parce que même quand on en parle avec son compagnon, même quand on est sûr de soi, tu vois, moi, sur la table d'opération, l'anesthésiste, il me dit, allez, c'est bon, on y va. Et j'étais encore en train de pleurer, quoi.
Parce que tu sais que c'est irréversible.
C'est ça. C'est irréversible. Et tu te dis, bon, ok, c'est bon, j'aurai plus jamais d'enfant de ma vie, quoi. Donc, faut être sûr de soi.
Donc, on t'a enlevé l'utérus.
On m'a enlevé l'utérus, ouais.
Ça va, c'est une opération qui est pas... Enfin, parce que j'imagine que c'est quand même lourd.
Oui, mais après... Mais après, ça se gère très bien. Enfin, c'était...
Là, t'as pas de séquelles, t'as pas de...
Et j'ai plus du tout mal, surtout. Et je revis.
Ouais.
Tu vois.
Le bien-être, je pense que c'est quand même le plus important. Hein. Ouais. Se sentir bien soi.
Se sentir bien.
Et les autres le soient aussi. Hein,
et j'étais arrivée à un stade où ma fille, qui avait 4 mois, à un moment donné, parfois, je ne pouvais pas la porter tellement j'avais mal. Je ne pouvais pas m'asseoir bien correctement pour jouer avec elle tellement j'avais mal. Donc, je me suis dit non, là, c'est plus possible. Faut que je sois bien et il faut que je sois à 100% avec elle. Quoi.
Ça, c'est très lié à la santé physique. Est-ce que tu as eu aussi des problèmes de santé mentale?
Non.
Jamais?
Non. Non, je te dis, le gros moment où ça a été compliqué, ça a été pendant l'arrêt du patinage. Mais sinon, non, ça a été assez... Non, j'ai été bien suivie.
Et qu'est-ce qui t'a attiré alors vers les livres de développement personnel?
Bah, écoute, je crois que la première fois, on m'en a offert un.
Tu te souviens lequel c'était?
Le pouvoir du moment présent.
Alors, bon, dis-moi ce que t'en penses.
Assez compliqué à lire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le terminer, tout ça, mais il y a tellement des clés importantes. Ça, c'est vraiment le livre développement personnel. Mais après, c'est vrai que mon cousin, quand j'avais 15 ans, m'avait offert L'Alchimiste, où déjà, j'avais... Je m'étais dit, tiens, il y a quand même des trucs, il y a pas mal de clés, il y a des choses intéressantes. Le Petit Prince, qu'on lit enfant, mais qu'il faut relire adulte, parce qu'il y a des choses...
Enfant, je trouve que ça sert à rien de le lire.
Ça sert à rien.
On passe à côté de tout, de la substance.
Exactement. Et donc, toute la deuxième lecture, troisième même parfois, c'est un livre que je relis très régulièrement, parce que à chaque fois, il y a des... Par rapport à ce que je vis, je vois des petits trucs que j'avais pas vus... Tu sais, à l'époque. Ouais, ça, les 4 accords Toltec, Ho Oponopono. C'est mes livres de départ, en fait.
C'est intéressant. Ouais. L'occasion d'écouter, là, récemment, j'ai fait un podcast avec Charles Pépin, qui est un philosophe, un super philosophe. Ouais. Et où, bon, on est assez critique envers le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Pas tant le moment présent en tant que tel, mais l'injonction... Au moment présent, en finalement dévalorisant le passé et le futur, qui je pense sont essentiels
à
notre construction. Mais après, j'entends totalement ça qui est intéressant, je trouve, dans le développement personnel, c'est que en fait, y a des livres qui parlent vachement à certaines personnes, pas du tout à d'autres. Donc finalement, c'est très personnel.
Ouais.
Et l'écueil, je trouve, aujourd'hui, c'est d'en faire une vérité générale.
Ouais.
Où voilà, certains gourous, hein, prétendent exposer une vérité qui vaudrait pour tout le monde, alors que je pense vraiment que on est très différents et donc on n'aura pas tous les mêmes moyens de se sentir mieux, en fait.
Et puis même parfois, il y a un livre qui va te toucher ou qui ne va pas te toucher aujourd'hui. Tu vas le lire dans 2 ans et tu vas dire « Ah mais putain, mais oui, c'est ça, j'avais besoin de ça aujourd'hui, tu vois. »
Lequel a eu le plus d'impact sur toi, tu dirais ?
Écoute, à l'époque, je crois que c'est les 4 accords Toltec. Parce que c'est 4 accords assez simples et dans la vie, tu te dis « Ah !» Non, ne fais pas de suppositions, tu vois. Tu dis, ouais, ok, d'accord. Tu vois, c'est assez facile à mettre en place au quotidien.
C'est vrai, c'est très concret. Est-ce que tu as des routines aujourd'hui qui t'aident à te sentir aussi bien dans ton corps que dans ta tête ?
Du sport, bouger. Donc ça, c'est important parce que j'ai toujours été sportive et quand, par exemple, pendant une semaine, je fais pas de... Je suis comme ça, donc c'est mieux pour moi et pour mon entourage aussi. Que j'aille me défouler et pour dans ma tête bah pareil enfin c'est j'ai besoin de sport, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de bien dormir. Tu vois, c'est les 3 choses importantes. Bouger, dormir et bien manger.
Ouais, les piliers.
C'est ouais, déjà les bases.
Ouais, c'est sûr.
Vraiment.
Tu as fait beaucoup de choses finalement ces dernières années. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fait que tu aimerais faire ? On sent le oui, là.
Oui. Non, mais là, y a quelque chose qui s'ouvre et qui... Déjà, j'aimerais aller plus loin.
D'accord.
Dans la réalisation.
OK.
Voilà. Donc, déjà, là, je me concentre là-dessus. Après, on verra.
Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ?
Il y a plein de personnes qui m'inspirent. Il y a mes parents. Il y a mon chéri. M'inspire beaucoup. Ma fille.
Qu'est-ce qu'il fait, ton chéri ?
Il a un label de musique.
D'accord.
Mais dans sa façon de réfléchir, comment il est posé. Moi, je suis taureau, je fonce. Et lui, il est plus posé, il est plus... Attends, nanana. Donc tu vois, j'apprends beaucoup de lui aussi. Et puis des personnes...
Écoute, j'ai envie de te demander si là, tu avais l'occasion d'avoir une petite conversation avec Laurie à 19 ans, après l'énorme succès de ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Accroche-toi, ma petite. Ça n'est que le début. T'as bien fait de croire en tes rêves. Tu as continué de bosser, continue d'apprendre, continue d'être curieuse. Et tu verras, la vie, il y aura des moments difficiles, mais il y aura aussi des moments super. Et c'est ça, de vivre, en fait.
C'est quoi le moment le plus difficile que tu aies eu à affronter ?
La mort d'une personne très importante.
Ouais. Et... Tu l'as dépassé comment ?
Avec le temps, en étant entourée des personnes qu'il aimait, tu vois, on était tous... Mais ça ne se guérit pas, ça, je crois. C'est même avec le temps, il y aura toujours un manque, en fait.
On apprend à vivre avec ses blessures.
Exactement.
C'est quoi ta plus grande peur, au-delà de la mort de tes proches ?
Bah, bizarrement... Aujourd'hui, c'est ma mort à moi, mais par rapport à ma fille, tu vois. Parce qu'avant, je m'en foutais complètement. Heureusement que j'ai déjà fait le saut à l'élastique, le saut en parachute. Je crois qu'aujourd'hui, je referais pas. Avant, il pouvait y avoir des turbulences en avion, les gens hurlaient. Moi, j'étais en train de dormir, j'en avais vraiment rien à faire. Je dis bah oui, bah si on meurt, on meurt. Écoute, c'est comme ça, hein, tu vois. Mais maintenant que j'ai ma fille, je t'assure, je vois les choses complètement différemment. Je peux pas mourir, ma fille, elle compte sur moi. Tu vois, le truc, c'est... J'ai une responsabilité aujourd'hui.
Ouais. Si là, je te donnais un petit carnet, pour une raison qui n'arrivera pas, tu ne devais jamais revoir ta fille.
Oh non, c'est dur, là.
Qu'est-ce que tu écrirais si jamais tu devais nous donner 3 enseignements ? Enfin, lui donner 3 enseignements.
Non, je peux même pas imaginer ça.
Alors, si jamais, juste, tu lui dis, voilà, je te donne un carnet... tu dois l'ouvrir à tes 18 ans.
Ok.
Et t'écris 3 enseignements. Qu'est-ce que tu lui dis ?
N'oublie jamais d'être heureuse. Écoute-toi. Et viens voir ta vieille mère de temps en temps.
Très bon conseil. Allez voir vos parents et vos grands-parents.
C'est ça, exactement.
Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est prendre les rênes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres. Au contraire, on peut être conseillé, on peut demander des conseils et tout. Mais au final, c'est nous qui prenons les rênes et c'est nous qui donnons la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et souvent, bah, le chemin et la destination, c'est pour être heureux, quoi.
Super. Merci beaucoup, Laurie. Avec plaisir. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi, vraiment, et d'en savoir plus sur toute ton histoire. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, voilà, sur tes dernières actualités, sur ce single qui va sortir, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Eh bien, sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. Spotify, Deezer, tout ça, tout ça.
Super. Je mettrai ton Insta dans les notes.
Ouais, l'Insta, les TikTok, tout ça, sur mes profils. De toute façon, je mets toujours toute l'actualité et tout ça.
Ok. Très bien. Bah écoute, j'espère à très vite. Et puis merci encore.
Avec plaisir, c'était très agréable.
Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @LauriePester et @MyBetterSelf et envoyer un petit message à Laurie si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur Empower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'Empower.